Le prince finit ainsi, et la belle allait lui répondre, lorsqu'elle en fut empêchée par un bruit de voix éclatante et d'instruments guerriers qui cependant n'annonçaient rien de sinistre. Ils mirent la tête à la fenêtre, et la fée et la reine, qui revenaient de leur promenade, en firent autant. Ce bruit procédait de l'arrivée d'un homme qui, selon les apparences, devait être un roi. L'escorte qui l'environnait avait toutes les marques de la dignité royale, et lui-même, en sa personne, faisait voir un air de majesté qui ne démentait point la magnificence dont il était accompagné. Ce prince, parfaitement bien fait, quoiqu'il ne fût plus dans sa première jeunesse, montrait qu'il avait eu peu d'égo dans le printemps de son âge. Il était suivi de 12 gardes et de quelques courtisans en habits de chasse qui paraissaient aussi étonnés que leur maître de se trouver dans un château qui leur était inconnu. On lui rendit les mêmes honneurs que s'il eût été dans ses propres états, et le tout par des invisibles, car ils entendaient des cris de joie et de fanfare, et ils ne voyaient personne. La fée, en le voyant paraître, dit à la reine « Voilà le roi, votre frère, et le père de la belle. Il ne s'attend point au plaisir de vous trouver ici. Il en sera d'autant plus satisfait que, comme vous le savez, il croit sa fille morte depuis longtemps. Il la regrette encore aussi bien que sa femme, de qui il conserve un tendre souvenir. » Ce discours augmenta l'impatience que la jeune fille et la princesse avaient d'embrasser ce prince, et elles arrivèrent promptement dans la cour au moment que lui-même descendait de cheval. Il les aperçut sans les pouvoir connaître, mais ne doutant point qu'elles ne vinssent au-devant de lui, il ne savait quel compliment leur faire, ni de quels termes se servir. Lorsque la belle, se jetant à ses genoux, les embrassa en l'appelant son père. Ce prince la releva, et la serrant tendrement entre ses bras, ne comprenait point pourquoi elle lui donnait ce nom. Il s'imagina qu'elle pouvait être une princesse orpheline et opprimée qui venait implorer sa protection, et qui ne se servait des termes les plus touchants que pour obtenir l'effet de sa demande. Il était prêt à l'assurer qu'il allait faire en sa faveur tout ce qui dépendrait de lui, lorsqu'il reconnut la reine, sa sœur, qui, l'embrassant à son tour, lui présenta son fils. Elle lui fit connaître une partie des obligations qu'elle et lui avaient à la belle, et ne lui cacha pas l'affreuse aventure qui venait de se terminer. Le roi loua cette jeune princesse, et voulant savoir son nom, quand la fée, l'interrompant, lui demanda s'il était nécessaire de nommer ses parents, et s'il n'avait jamais connu personne à qui elle ressembla assez pour les lui découvrir. « Si je m'en rapportais à ses traits, dit-il en la regardant fixement et ne pouvant retenir quelques larmes, le nom qu'elle m'a donné m'est légitimement dû. Mais malgré ses signes et l'émotion où sa vue me jette, je n'ose me flatter que ce soit ma fille que j'ai pleurée puisque j'ai vu les marques certaines qu'elle a été dévorée par les bêtes sauvages. Cependant, continua-t-il en la considérant de nouveau, elle est parfaitement ressemblante à la tendre et incomparable épouse que la mort m'a ravie, que je suis flattée agréablement de l'espérance de revoir en elle le fruit d'un hymen charmant dont les chaînes n'ont été que trop tôt rompues. « Vous le pouvez, Seigneur, reprit la fée, la belle est votre fille. Sa naissance n'est plus un secret ici. La reine et le prince savent qui elle est. Je ne vous ai fait venir que pour vous en instruire. Mais nous ne sommes point dans un lieu commode pour faire le détail de cette aventure. Entrons dans le palais, vous vous y reposerez quelques instants et ensuite je vous raconterai ce que vous désirez savoir. Après la joie que vous aurez ressentie de retrouver une fille si belle et si vertueuse, je vous ferai part d'une autre nouvelle à laquelle vous ne serez pas moins sensible. » Le roi, accompagné de sa fille et du prince, fut conduit par les officiers singes dans l'appartement que la fée lui avait destiné. L'intelligence prit ce temps pour rendre au statut la liberté de parler de ce qu'elles avaient vu. Comme leur sort avait fait compassion à la reine, elle voulut que ce fût par ses mains qu'elles ressentissent la douceur de revoir la lumière. Elle lui donna sa baguette, avec laquelle la reine, ayant décrit par son ordre 7 cercles en l'air, elle prononça ces mots d'une voix naturelle. « Animez-vous, votre roi est sauvé !» Toutes ces figures immobiles se remuèrent, commencèrent à marcher et à agir comme ci-devant, ne se souvenant que confusément de ce qui leur était arrivé. Après cette cérémonie, la fée et la reine retournèrent auprès du roi, qu'elles trouvèrent en conversation avec la belle et le prince. Tour à tour, il leur faisait des caresses, et surtout à sa fille, à laquelle il demanda 100 fois comment elle avait été sauvée des bêtes féroces qui l'avaient emportée, sans faire réflexion qu'elle lui avait répondu dès la première fois qu'elle n'en savait rien, et qu'elle avait même ignoré le secret de sa naissance. De son côté, le prince parlait sans être entendu, répétant 100 fois les obligations qu'il avait à la princesse Belle. Il aurait aussi désiré prévenir le monarque sur les promesses que la fée lui avait faites de lui en accordant la possession et le prier de ne pas refuser un agréable consentement à son alliance. Cet entretien et ses caresses furent interrompus par l'arrivée de la reine et de la fée. Le roi, qui retrouvait sa fille, connaissait toute l'étendue de son bonheur, mais il ignorait encore à qui il avait obligation de ce précieux avantage. « C'est à moi, lui dit la fée, et c'est moi seule qui dois vous expliquer l'aventure. Je ne borne pas mes bienfaits à vous en faire le récit, j'ai encore des nouvelles à vous annoncer qui ne sont pas moins agréables. Ainsi, grand roi, vous pouvez marquer ce jour parmi les jours heureux de votre vie. » La compagnie, connaissant que la fée se préparait à parler, fit comprendre par son silence qu'elle lui donnerait une grande attention. Pour répondre à leur attente, voici le discours qu'elle tint au roi. « La belle, seigneur, et peut-être le prince, sont les seuls ici qui ne savent pas les lois de l'île heureuse. C'est pour eux que je vais les expliquer. Il est parmi tous les habitants de cette île, et même au roi, de ne consulter que leur goût dans la personne qu'un chacun doit épouser, afin que rien ne s'oppose à son bonheur. Ce fut en vertu de ce privilège que vous choisîtes une jeune bergère que vous rencontrâtes à la chasse. Ses attraits, sa sagesse, vous la firent trouver digne de cet honneur. Tout autre qu'elle, et même des filles élevées en dignité, eussent accepté avec joie et empressement celui de votre maîtresse, mais sa vertu lui fit dédaigner une pareille offre. Vous l'élevâtes sur le trône et lui donnâtes un rang, duquel la bassesse de sa naissance semblait la devoir exclure, mais qu'elle méritait par la noblesse de son caractère et la beauté de son âme. Vous pouvez vous souvenir que vous eûtes toujours sujet de vous louer de votre choix. Sa douceur, sa complaisance et sa tendresse pour vous égalèrent les charmes de sa personne. Mais vous ne jouîtes pas longtemps du plaisir de la voir. Après qu'elle vous eût fait père de la belle, vous vous trouvâtes obligé de faire un voyage sur vos frontières pour prévenir une apparence de révolte dont vous fûtes informé. Pendant ce temps, vous fîtes la perte de cette chère épouse, qui vous toucha d'autant plus que vous joignit à la tendresse que ses appas vous avaient fait inspirer la plus parfaite estime pour ses rares qualités. Malgré sa grande sagesse et le peu d'éducation que sa naissance lui avait donnée, vous lui trouvâtes une prudence consommée et vos plus habiles courtisans furent étonnés des sages conseils qu'elle vous donnait et des ingrédients qu'elle trouvait pour vous faire réussir dans tous vos projets. Le roi, qui avait souvent conservé sa douleur et à qui la perte de cette digne épouse était toujours présente, ne put entendre ce récit sans donner de nouveaux témoignages de sensibilité, et la fée, qui s'aperçut que ce discours l'attendrissait, lui dit « Votre sensibilité me prouve que vous méritez ce bonheur. Je ne veux pas vous rappeler davantage un souvenir qui ne peut que vous attrister. » Mais je dois vous apprendre que cette prétendue bergère était une fée et ma sœur. Informée que l'île heureuse était un charmant pays, sachant ses lois et la douceur de votre gouvernement, elle eut envie de la voir. L'habit d'une bergère fut le seul déguisement qu'elle emprunta pour jouir quelque temps de sa vie champêtre. Vous la rencontrâtes dans ce séjour. Ses grâces et sa jeunesse vous touchèrent. Elle s'abandonna sans contrainte à l'envie de savoir si vous aviez autant de charme dans l'esprit qu'elle en trouvait dans votre personne. Elle se fit à sa qualité et à son pouvoir de fée, qui la mettrait, quand elle voudrait, à couvert de vos empressements, supposés qu'ils fussent jusqu'à l'importunité, et que la condition sous laquelle elle paraissait vous fît présumer que, sans conséquence, vous lui pouviez manquer de respect. Elle ne redoutait point les sentiments que vous lui pouviez inspirer, et persuadée que sa vertu suffisait pour la garantir des pièges de l'amour, elle attribuait ce qu'elle avait senti pour vous à la simple curiosité de connaître s'il y avait encore sur la terre des hommes capables d'aimer la vertu dépourvue des ornements étrangers et qui la rendent plus brillante et plus respectable aux vulgaires que sa propre qualité, et de qui les secours funestes font souvent donner son nom aux vices les plus abominables. Abusée par cette idée, loin de se retirer dans notre asile général comme elle l'avait d'abord projeté, elle voulut habiter une petite cabane qu'elle s'était faite dans la solitude où vous la rencontrâtes avec une figure fantastique qui représentait sa mère. Ces deux personnes semblaient vivre du produit d'un prétendu troupeau qui ne craignait point les loups, n'étant en effet que des génies déguisés. Ce fut dans ce lieu qu'elle reçut vos soins. Ils produisirent tout l'effet que vous pouviez désirer. Elle n'eut pas la force de refuser l'offre que vous lui fîtes de la couronne. Vous connaissiez toute l'étendue de l'obligation que vous lui deviez, dans les temps que vous croyiez qu'elle vous devait tout et que vous vouliez bien la laisser dans cette erreur. Ce que je vous apprends vous est une preuve sensible que l'ambition n'est point de part au consentement qu'elle donnait à vos désirs. Vous n'ignorez pas que nous regardons les plus grands royaumes comme des biens dont nous faisons présent à qui nous plaît. Mais elle fit attention à votre généreux procédé, et se croyant heureuse de s'unir à un homme aussi vertueux, elle s'étourdit sur cet engagement au point qu'elle ne se fit aucune réflexion au danger dans lequel elle allait se précipiter. Car nos lois défendent directement toute alliance avec ceux qui n'ont pas autant de puissance que nous, surtout avant que nous n'ayons assez d'ancienneté pour avoir de l'autorité sur les autres et jouir du droit de présider à notre tour. Avant ce temps, nous sommes subordonnés à nos anciennes, et pour que nous n'abusions pas de notre pouvoir, nous n'avons celui-ci de disposer de nos personnes qu'en faveur d'une intelligence ou d'un sage de qui la puissance soit au moins égale à la nôtre. Il est vrai qu'après la vétérance, nous sommes maîtresses de faire quelle alliance il nous plaît, mais il est rare que nous eussions ce droit, et ce n'est jamais qu'au scandale de l'ordre qui ne reçoit cet affront que rarement. Encore, est-ce de la part de quelques vieilles fées qui paient presque toujours cher leur extravagance, car elles épousent de jeunes gens qui les méprisent, et quoi qu'on ne les punisse pas directement, elles le sont suffisamment par les mauvaises façons de leur époux, de qui il ne leur est pas permis de se venger. C'est la seule peine que nous leur imposons. Les désagréments qui suivent presque toujours les folies qu'elles ont faites leur ôtent l'envie de révéler aux profanes de qui elles espéraient des égards et des soins nos secrets avantageux. Ma sœur n'était dans aucun de ces cas. Douée de toutes les qualités propres à se faire aimer, il ne lui manquait que l'âge. Mais elle ne consulta que son amour. Elle se flatta de pouvoir tenir son hymen secret. Elle y réussit quelque temps. Nous n'avons guère l'usage de nous informer de ce que font celles qui sont absentes. Chacune s'occupe de ses propres affaires, et nous nous répandons dans le monde pour faire du bien ou du mal, selon nos inclinations, sans être obligés, à notre retour, de rendre compte de nos actions, à moins que nous n'ayons eu une conduite qui fasse parler de nous, ou que quelque fée bienfaisante, touchée des malheureux injustement persécutés,
n'emporte les plaintes. Il faut enfin quelque aventure imprévue pour qu'on visite le livre général dans lequel ce que nous faisons se grave de lui-même au moment que la chose arrive. Excepté ces occasions, nous ne devons paraître à l'Assemblée que 3 fois l'année, et comme nous voyageons fort commodément, il n'est question pour en être quitte que d'une présence de 2 heures. Ma sœur était obligée d'éclairer le trône, c'est ainsi que nous appelons cette corvée. Quand il le fallait, elle vous préparait de loin une chasse ou un voyage de plaisir, et après votre départ, elle affectait quelque incommodité pour rester seule, enfermée dans son cabinet, ou supposée d'avoir besoin d'écrire ou de se reposer. On ne s'aperçut point dans votre palais, ni parmi nous, de ce qu'elle avait tant d'intérêt de cacher. Ce mystère n'en fut pas un pour moi. Les conséquences en étaient dangereuses. C'est ce que je lui fis connaître. Mais elle vous aimait trop pour se repentir de sa démarche. Voulant même se justifier dans mon esprit, elle exigea que je vinsse vous voir. Sans vous faire de compliments, j'avoue, Seigneur, que si votre vue ne me fit pas entièrement approuver sa faiblesse, du moins, elle diminua considérablement et augmenta le zèle avec lequel je cherchais à la tenir cachée. Sa prévarication fut inconnue pendant 2 ans. Mais enfin, elle se découvrit. Nous sommes obligés de faire un certain nombre de bienfaits dans l'étendue générale de l'univers, dont nous nous trouvons forcés de rendre compte. Quand ma sœur fut obligée de rendre le sien, elle ne put montrer de faveur que dans l'île heureuse et pour l'île heureuse. Plusieurs de nos fées, de mauvaise humeur, blâmèrent son procédé. C'est ce qui fit que notre reine lui demanda par quelle raison elle bornait son humeur bienfaisante à cette faible partie de la terre, puisqu'il ne lui était pas permis d'ignorer qu'une jeune fée devait beaucoup voyager pour faire connaître à l'univers quelle est notre puissance et notre volonté. Comme cette loi n'était pas nouvelle, ma sœur n'eut pas de sujet d'en murmurer ni de prétexte pour refuser d'obéir. Elle promit de s'y conformer, mais l'impatience de vous revoir, la peur qu'on ne s'aperçût de son absence, l'impossibilité de faire des actions secrètes sur le trône, ne lui permirent pas de s'éloigner assez longtemps et assez souvent pour faire son devoir. Et à l'assemblée suivante, à peine put-elle prouver qu'elle eût été un quart d'heure hors de l'île heureuse. Notre reine, irritée contre elle, la menaça de détruire cette île pour l'empêcher de violer plus longtemps nos lois. Cette menace la troubla si fort que la moins clairvoyante des fées connut jusqu'à quel point votre épouse portait la sensibilité pour cette île fatale. Et la méchante fée qui a donné au prince que voici la monstrueuse figure qu'il a eue, s'aperçut à son trouble qu'en ouvrant le grand livre, elle y trouverait un sujet important et capable d'exercer son inclination malfaisante. « C'est là, s'écria-t-elle, que la vérité se découvrira et que nous allons apprendre au vrai quelle est sa conduite. » À ces mots, elle fit voir à toute l'assemblée tout ce qui s'était passé depuis 2 ans et le lut à voix haute et distincte. Toutes les fées firent un bruit étrange en apprenant cette mésalliance et accablèrent ma triste sœur des plus cruels reproches. Elle fut dégradée de notre ordre et condamnée à demeurer prisonnière chez nous. Si la punition de cette faute n'eût consisté que dans la première des peines, elle se fût consolée. Mais le second châtiment, plus terrible que le premier, lui fit sentir toute la rigueur de l'un et de l'autre. La perte de sa dignité la touchait peu, mais vous aimant tendrement, elle demanda, les yeux en larmes, qu'on se contentât de la dégrader sans priver de la douceur, de vivre en simple mortel avec son époux et sa chère fille. Ses pleurs et ses supplications touchaient les jeunes vétérantes, et je vis, au murmure qu'on fit, que si dans l'instant on eût accueilli les voix, elle en eût assurément été quitte pour une remontrance. Mais une des plus anciennes, que pour sa grande décrépitude nous appelons la mère des temps, ne donna pas à la reine le loisir de s'expliquer et de faire connaître que la pitié s'était emparée de son cœur comme de celui des autres. « Ce crime ne doit pas se tolérer !» s'écria d'une voix cassée cette détestable vieille. « S'il n'est pas puni, nous serons tous les jours exposés aux mêmes affronts. L'honneur de l'ordre y est absolument engagé. Cette misérable, attachée à la terre, ne regrette point la perte d'une dignité qu'il élevait 100 fois plus haut au-dessus des rois, qu'ils ne le sont au-dessus de leurs sujets. Elle nous apprend que son affection, ses craintes et ses désirs se tournent vers son indigne famille. C'est par cet endroit qu'il la faut punir, que son époux la regrette, que sa fille, fruit honteux de ses lâches amours, épouse un monstre pour lui faire expier la faiblesse d'une mère qui a eu la faiblesse de se laisser charmer par la beauté fragile et méprisable de son père. » Cette cruelle sentence fit revenir à la rigueur beaucoup de celles qui penchaient vers la clémence. Le petit nombre de celles qui avaient été touchées de pitié n'étant pas assez considérable pour s'opposer à la délibération générale, elle fut exécutée à la rigueur, et notre reine elle-même, dont la physionomie paraissait tournée à la compassion, reprit son air sévère et confirma, à la pluralité des voix, l'avis de cette mauvaise vieille. Cependant, ma sœur, qui cherchait à faire révoquer un arrêt si cruel pour toucher les juges et exécuter son hymen, fit de vous un portrait si charmant qu'elle enflamma le cœur de la fée gouvernante du prince. C'était celle qui avait ouvert le livre. Mais cet amour naissant n'a servi qu'à redoubler la haine que cette injuste fée avait déjà pour votre triste épouse. Ne pouvant résister à l'empressement qu'elle avait de vous voir, elle colora sa passion du prétexte de connaître si vous méritiez qu'une fée vous fît le sacrifice que sa sœur vous avait fait. Comme elle était chargée du prince et qu'elle avait fait approuver cette tutelle à l'assemblée, elle n'aurait osé l'abandonner si l'amour ingénieux ne lui eût inspiré de mettre auprès de lui un génie protecteur, et deux fées subalternes et invisibles pour en répondre en son absence. Après cette précaution, elle ne songea qu'à suivre ses désirs qui la portèrent dans l'île heureuse. Cependant, les femmes et les officiers de la reine prisonnière, étonnés de ce qu'elle ne sortait point de ce cabinet secret, en furent alarmés. Les défenses expresses qu'elle avait faites de ne pas l'interrompre leur firent passer la nuit sans frapper à la porte. Mais l'impatience faisant place à toute autre considération, ils frappèrent vivement, et personne ne leur répondant, ils enfoncèrent la porte, ne doutant plus qu'il ne lui fût arrivé quelque accident. Quoiqu'ils s'attendrissent à tout ce qu'il y a de plus funeste, ils ne furent pas moins consternés de ne pas la trouver. On l'appela, on la chercha vainement. Rien ne s'offrit pour soulager le désespoir que son absence causait. On fit 1000 raisonnements tout aussi absurdes les uns que les autres. On ne pouvait soupçonner que son évasion fût volontaire. Elle était toute puissante dans votre royaume. Le pouvoir souverain que vous lui aviez laissé ne lui était contesté par qui que ce fût. Tous lui obéissaient avec joie. La tendresse que vous aviez l'un pour l'autre, celle qu'elle avait pour sa fille et pour les sujets dont elle faisait ses délices, empêchait qu'on ne l'accusât de sa fuite. Où fut-elle allée pour être mieux? D'ailleurs, quel homme eût osé enlever une reine du milieu de ses gardes et du fond de son palais? On aurait su la route que les ravisseurs purent prendre. Le malheur était certain, quoique les circonstances en fussent cachées. Il y en avait un autre à redouter. C'était, Seigneur, la façon dont vous recevriez cette fatale nouvelle. L'innocence de ceux qui étaient responsables de la personne de la reine ne les rassurait point contre les effets de votre juste courroux. Il fallait se déterminer à fuir de vos états et par cette fuite, se déclarer coupable d'un crime qu'il n'avait pas commis, où il fallait trouver le secret de vous cacher ce malheur. Après beaucoup de délibérations, on n'en imagina point d'autre que de vous persuader qu'elle était morte, ce qui fut exécuté dans l'instant. On fit partir un courrier pour vous apprendre qu'elle était tombée malade. Un second, qui partit quelques heures après, vous porta la nouvelle de sa mort. C'était afin que votre amour ne vous fît pas venir en diligence. Votre présence eut rompu toutes les mesures qui faisaient la sûreté générale. On lui fit les obsèques dignes de son rang, de votre affection et des regrets du peuple dont elle était adorée et qui la pleurait aussi sincèrement que vous-même. Cette cruelle aventure fut toujours un secret pour vous, quoiqu'il n'y eût personne dans toute l'île heureuse qui l'ignorât. Les premières surprises avaient rendu ce malheur public. La douleur que vous sentîtes de cette perte fut proportionnée à votre affection. Vous n'y trouvâtes de soulagement qu'à faire venir la princesse, votre fille, auprès de vous. Les innocentes caresses de cet enfant firent toute votre consolation. Vous ne voulûtes plus vous en séparer. Elle était charmante et vous présentait sans cesse un portrait vivant de la reine sa mère. La fée ennemie, qui avait été la première cause de tout ce désordre, en ouvrant le grand livre par lequel elle avait découvert le mariage de sa sœur, n'était pas venue vous voir sans payer sa curiosité. Votre présence avait produit sur son cœur le même effet que sur celui de votre épouse, et sans que cette expérience la portât à l'excuser, elle désirait ardemment de commettre la même faute. Invisible auprès de vous, elle ne pouvait se résoudre à vous quitter. Vous voyant inconsolable, elle ne se flattait pas d'un heureux succès dans ses amours, et craignant de joindre la honte de vos mépris à l'inutilité de ses desseins, elle n'osait se faire connaître à vous. D'un autre côté, jugeant qu'il était nécessaire de paraître, elle pensait que par le tour de son esprit, elle vous accoutumerait à la voir, et peut-être à l'aimer. Mais il fallait vous entretenir, et pour en avoir le moyen, elle rêva tant au tour qu'elle donnerait pour se présenter devant vous avec décence, qu'elle le trouva. Il y avait une reine voisine qui se voyait chassée de ses états par un usurpateur assassin de son mari. Cette triste princesse courait le monde pour trouver un asile et un vengeur. La fée l'enleva, et l'ayant mise dans un endroit sûr, elle l'endormit et prit sa figure. « Vous la vîtes, Seigneur, cette fée déguisée, se jeter à vos pieds et implorer votre protection pour punir, disait-elle, le meurtrier d'un époux qu'elle regrettait autant que vous regrettiez la reine. » Elle vous protesta que l'amour conjugal était l'unique motif qui la faisait agir, et qu'elle renonçait de tout son cœur à une couronne qu'elle offrait à celui qui vengerait son cher époux. Les malheureux ont pitié les uns des autres. Vous entrâtes dans sa douleur, d'autant plus qu'elle pleurait un époux chéri, et que mêlant ses larmes avec les vôtres, elle vous parlait sans cesse de la reine. Vous lui accordâtes votre protection, et vous ne tardâtes pas à la rétablir dans son prétendu royaume, en punissant les rebelles et l'usurpateur, comme elle le semblait désirer. Mais elle n'y voulut pas retourner, ni vous quitter. Elle vous supplia, pour sa sûreté, de faire régir son royaume en son nom, puisque vous aviez trop de générosité pour accepter le présent qu'elle vous en voulait faire, et de lui permettre de vivre à votre cour. Vous ne pûtes lui refuser cette nouvelle grâce. Elle vous parut nécessaire à élever votre fille, car la droite mégère n'ignorait pas que cet enfant était l'unique objet de votre affection. Elle faisait une extrême tendresse pour elle, et la tenait continuellement entre ses bras. Vous prévenant sur la prière que vous alliez lui faire, elle vous demanda avec empressement de lui permettre de se charger de son éducation, disant qu'elle ne voulait point d'autre héritier que cette chère fille, qui serait la sienne, et l'unique objet de son amour, parce que, disait-elle, elle lui rappelait le souvenir de celle qu'elle avait eue de son époux et qui avait péri avec lui. Sa proposition vous parut si avantageuse que vous ne balançâtes point à lui remettre la princesse, et même à l'en rendre maîtresse absolue. Elle s'acquitta parfaitement de sa charge, et par ses talents et son affection, elle eut entièrement votre confiance, et comme à une tendre sœur, vous lui donnâtes votre amitié. Ce n'était pas assez pour elle. Tous ses soins ne tendaient qu'à devenir votre femme. Pour en venir à bout, elle ne négligea rien. Mais quand vous n'eussiez pas été l'époux de la plus belle des fées, elle n'était pas faite pour donner de l'amour. La figure qu'elle avait empruntée ne pouvait entrer en compassion avec celle dont elle briguait la place. Extrêmement laide, et l'étant naturellement elle-même, elle n'eût pu emprunter de la beauté pour plus d'un jour par an. Cette expérience flatteuse lui fit comprendre que, pour réussir, il fallait qu'elle eût recours à d'autres moyens qu'à la beauté. Elle cabala secrètement pour obliger les peuples et les grands à vous solliciter de prendre une femme et pour se faire désigner. Mais certains discours ambigus qu'elle vous avait tenus pour fonder vos dispositions vous firent aisément connaître d'où provenaient les vives sollicitations dont vous étiez importuné. Vous témoignâtes nettement que vous ne vouliez pas entendre parler de donner une belle-mère à votre fille, ni vous mettre en état, en la subordonnant à une reine, de lui ravir le premier rang de vos états, avec l'espérance certaine de vous succéder au trône. Vous fîtes aussi entendre à cette fausse princesse qu'elle vous ferait plaisir de retourner chez elle sans bruit et sans retardement. Lorsqu'elle y serait de retour, vous promîtes de lui rendre tous les bons offices qu'elle pourrait attendre d'un ami fidèle et d'un voisin généreux. Mais vous ne lui cachâtes pas que si elle ne prenait ce parti de bonne grâce, elle courait risque d'y être forcée. L'obstacle invisible que vous opposiez à son amour l'a mis dans une colère terrible. Cependant, elle feignit une si grande indifférence sur cela qu'elle parvint à vous persuader. Cette tentative était un effet de son ambition et de la peur que, dans la suite, vous vous emparassiez de ses états, aimant mieux, malgré l'empressement qu'elle avait témoigné pour vous les faire accepter, vous laissez croire qu'elle ne vous les avait pas offerts de bonne foi que de vous donner à connaître ses véritables sentiments. Sa fureur, pour être cachée, n'en fut pas moins violente. Ne doutant point que ce ne fût pas la belle qui, plus puissante dans votre cœur que la politique, vous ferait renoncer à l'avantage d'augmenter votre empire d'une façon si glorieuse, elle conçut pour elle une haine aussi forte que celle qu'elle avait contre votre épouse et prit la résolution de s'en défaire. Ne doutant point que, si elle était morte, vos sujets renouvelant leur instance vous forçassent à vous mettre en état de laisser des successeurs. La bonne femme n'était guère en âge d'en donner, mais cette supercherie ne lui ferait rien. La reine de qui elle avait pris la ressemblance était assez jeune pour en avoir encore beaucoup, sa laideur n'étant pas un obstacle à un hymen royal et politique. Malgré la déclaration authentique que vous aviez faite, on pensait que si votre fille mourait, vous céderiez au continuel représentant de votre conseil. On ne doutait même plus que votre choix ne tombât sur cette feinte reine, ce qui lui attirait des créatures sans nombre. Ainsi, par le secours d'un de ces flatteurs, dont la femme avait l'âme aussi basse que lui, et qui était aussi méchante qu'elle, son dessein fut de se défaire de votre fille. Elle l'avait faite gouvernante de la princesse. Ils s'arrêtèrent entre eux de l'étouffer et de dire qu'elle était morte subitement. Mais pour plus grande sûreté, ils convinrent d'aller commettre ce meurtre dans la forêt voisine, afin que personne ne les pût surprendre en cette barbare exécution. Ils comptaient qu'on n'en aurait pas la moindre connaissance et qu'il serait impossible de les blâmer de n'avoir pas demandé du secours avant qu'elle fût expirée, ayant pour excuse légitime qu'ils étaient trop éloignés. Le mari de la gouvernante se proposait d'en venir chercher après qu'elle serait morte, et pour qu'on ne les soupçonnât de rien, il devait paraître surpris de les trouver hors d'état d'être secourus quand ils seraient revenus dans l'endroit où ils auraient laissé cette tendre victime de leur fureur. Et d'ailleurs, il étudiait la douleur et l'étonnement qu'il voulait affecter. lorsque ma misérable sœur se vit dépouillée de son pouvoir et condamnée aux rigueurs d'une cruelle prison, elle me recommanda de vous consoler et de veiller à la sûreté de sa fille. Il n'était pas nécessaire qu'elle prît cette précaution. L'union qui est entre nous et la pitié qu'elle me faisait aurait suffi pour vous attirer ma protection, et sa recommandation me porta à remplir ses désirs avec plus de zèle. Je vous voyais le plus souvent que je pouvais, et autant que la prudence me le permettait, sans courir le risque de donner des soupçons à notre ennemi, qui m'aurait dénoncé comme une fée en qui l'affection fraternelle prévalait sur l'honneur de l'ordre et qui protégeait une race coupable. Je ne négligeais rien pour convaincre toutes les fées que vous l'avez abandonnée à son malheureux sort. Et par là, je comptais me conserver plus de facilité de lui rendre service. Comme j'étais attentive à toutes les démarches de ce perfide amant, tant par moi-même que par les génies qui me sont soumis, son affreuse intention ne me fut pas cachée. Je ne pouvais m'y opposer à force ouverte. Et quoiqu'il me fût difficile d'anéantir ceux d'entre les mains de qui elle avait abandonné cette petite créature, la prudence m'empêchait. Et si j'eusse enlevé votre enfant, la maligne fée me l'aurait reprise sans qu'il m'eût été possible de la défendre. Il y a parmi nous une loi qui nous oblige d'avoir 1000 ans d'ancienneté avant d'entrer en dispute contre nos anciennes. Ou du moins, il faut avoir été serpent. Les périls qui nous accompagnent en cet état nous le fait nommer les fastes terribles. Il n'y en a point entre nous qui ne frémisse en songeant à l'entreprendre. Nous balançons longtemps avant de nous résoudre à nous y exposer, et sans un motif bien pressant de haine, d'amour ou de vengeance, il en est peu qui n'aiment mieux attendre leur vétérance du secours du temps que de la prévenir par ce dangereux moyen où la plus grande partie succombe. J'étais dans ce cas. Il s'en fallait 10 ans que mes 1000 ans fussent accomplis, et je n'avais de ressources que dans l'artifice. Je l'employai heureusement. Je pris la forme d'une ours monstrueuse et me cachant dans la forêt destinée à cette détestable exécution, lorsque ces misérables vinrent pour exécuter l'ordre barbare qu'ils avaient reçu, je me jetai sur la femme qui avait la petite entre ses bras et sur la bouche de laquelle elle mettait déjà la main. La frayeur qu'elle eut l'obligea à laisser tomber ce précieux fardeau, mais elle n'en fut pas quitte à si bon marché. Et l'horreur que me donnait son mauvais naturel m'inspira la cruauté de l'animal dont j'avais pris la figure. Je l'étranglai, ainsi que le traître qui l'avait accompagné, et j'emportai la belle après l'avoir promptement dépouillée, et teint ses vêtements dans le sang de ses ennemis. Je les éparpillai dans la forêt après avoir eu la précaution de les déchirer en plusieurs endroits, afin que l'on ne crût pas que la princesse en fût échappée, et je me retirai très contente d'avoir si bien réussi. La fée se crut servie selon ses désirs. La mort de ses deux complices était un avantage pour elle. Elle devenait maîtresse de son secret, et le sort que je venais de leur faire éprouver était celui qu'elle leur avait destiné pour récompenser leur coupable service. Une autre circonstance qui lui fut encore avantageuse, c'était que des bergers qui virent de loin cette expédition coururent appeler du secours qui arriva assez tôt pour trouver cette infâme qui expirait et vous ôter tout soupçon qu'elle y eut aucune part. Les mêmes incidents furent aussi favorables à mon entreprise. Ils convainquirent la méchante fée de la même chose que le vulgaire. Cet événement lui parut si naturel qu'elle n'en douta plus. Elle ne daigna même pas employer son pouvoir pour s'en assurer. Je fus ravie de sa sécurité. Je n'eusse pas été la plus forte si elle en voulut reprendre la petite belle, parce qu'outre les raisons qui la faisaient ma supérieure, et que je vous ai expliquées, elle avait l'avantage de tenir cet enfant de vous. Vous lui aviez confié votre autorité, contre laquelle il n'y avait que vous seul qui eussiez du pouvoir. Et à moins de la retirer vous-même de ses mains, rien ne la pouvait soustraire aux lois qu'elle lui voudrait imposer, jusqu'au temps qu'elle aurait été mariée. Délivrée de cette inquiétude, je me vis accablée par une autre. en me souvenant que la mère des temps avait condamné ma nièce à épouser un monstre. Mais elle n'avait pas encore 3 ans, et je me flattais de trouver par mon étude un expédient pour que cette malédiction ne s'accomplisse pas à la lettre, et que je la puisse faire tourner en équivoque. J'avais tout le temps d'y penser, et je ne m'occupais alors que du soin de trouver un lieu où je pusse mettre ma précieuse proie en sûreté. Le mystère m'était absolument nécessaire. Je n'osais lui donner un château, ni faire pour elle aucune magnificence de l'art. Notre ennemie s'en serait aperçue. Elle en eût eu quelque inquiétude, dont les suites eussent été funestes pour nous. J'aimais donc mieux prendre un habit simple et la confier au premier particulier que je rencontrais qui me paraîtrait homme de bien et où je pourrais me flatter qu'elle trouverait les aisances de la vie. Le hasard favorisa bientôt mes intentions. Je trouvais ce qui me convenait parfaitement. Ce fut une petite maison, dans un hameau dont la porte était ouverte. J'entrai dans cette chaumière qui me parut être celle d'un paysan à son aise. Je vis à la clarté d'une lampe 3 paysannes endormies auprès d'un berceau que j'ai jugé être celui d'un nourrisson. Il n'avait rien de la simplicité du reste de la chambre. Tout était somptueux. Je pensais que cette petite créature était malade et que le sommeil où ses gardes étaient plongés provenait de la fatigue qu'elles avaient eue auprès d'elle. Je m'en approchai sans bruit, dans le dessein de lui donner du soulagement, et je me faisais d'avance un plaisir de la surprise que ces femmes auraient eue en s'éveillant en trouvant leur malade guérie, sans savoir à quoi l'attribuer. Je m'empressais à tirer cet enfant de son berceau dans l'intention de lui souffler de la vie, mais ma volonté lui devint inutile. Il expirait au moment où je le touchais. Cette mort dans l'instant m'inspira le désir d'en profiter et de mettre ma nièce à sa place, si la bonne fortune voulait que ce fût une fille. Je fus assez heureuse pour que mes souhaits fussent remplis. Ravie de cette occurrence, je fis sans tarder cet échange et j'emportai la petite morte que j'enterrai. Je revins ensuite à cette maison où je fis du bruit à la porte pour éveiller les dormeuses. Je leur dis dans un patois affecté que j'étais une étrangère qui leur demandait un asile pour cette nuit. Elles me l'accordèrent de bonne grâce et furent regarder leur enfant, qu'elles trouvèrent endormi paisiblement et avec toutes les apparences d'une parfaite santé. Elles en furent joyeuses et surprises parce qu'elles ne connurent pas la tromperie que je leur avais faite en leur fascinant les yeux. Elles m'apprirent que cette petite fille était celle d'un riche marchand, qu'une d'elles était sa nourrice, qui, après l'avoir sevrée, l'avait rendue à ses parents, mais que l'enfant était tombé malade chez son père, qu'il avait renvoyé à la campagne dans l'espérance que le grand air lui ferait du bien. Elles ajoutèrent d'un visage satisfait, en regardant la petite, que cette expérience avait réussi et qu'elle produisait un meilleur effet que tous les remèdes qu'on avait mis en usage avant de la leur rendre. Elles résolurent de la reporter à son père aussitôt qu'il ferait jour, pour ne lui point retarder la satisfaction qu'il en recevrait, et pour laquelle elle comptait de recevoir une grosse récompense parce que cet enfant lui devenait extrêmement cher, quoique la dernière de 11. Au lever du soleil, elles partirent. De mon côté, je feignis de continuer ma route en m'applaudissant d'avoir placé ma nièce si avantageusement. Pour augmenter encore sa sûreté et pour engager ce père supposé à l'attacher à cette petite fille, je pris la figure d'une de ces femmes qui vont, disant la bonne aventure, et me trouvant à la porte du marchand, lorsque les nourrices la lui rapportèrent, j'entrai avec elle. Il les reçut avec joie, et prenant cette petite fille entre ses bras, il fut la dupe des préjugés de l'amour paternel, en croyant fermement que ses entrailles étaient émues à son aspect. Ce n'étaient que les mouvements du bon naturel qu'il confondait avec ceux de la nature. Je pris ce moment pour augmenter la tendresse qu'il s'imaginait ressentir. « Regarde bien cette petite, mon bon seigneur, lui dis-je, dans le langage ordinaire aux personnes dont j'avais pris l'habit. Elle te fera grand honneur dans ta famille. Elle te donnera de grands biens. et te sauvera la vie et à tous tes enfants. Elle sera tant belle, qu'ainsi sera-t-elle nommée par tous ceux qui la verront. » Pour récompense de ma prédiction, il me donna une pièce d'or, et je me retirai fort contente. Il ne restait plus rien qui m'obligeât à résider avec la race d'Adam. Pour profiter de mon loisir, je passai dans mon empire, résolu d'y rester quelque temps. Je demeurai tranquillement à consoler ma sœur, en lui apprenant des nouvelles de cette chère fille, et en lui témoignant que, loin de l'avoir oubliée, vous chérissiez sa mémoire dans la même tendresse que vous aviez eue pour sa personne. Voilà, grand roi, quelle était notre situation. Tandis que vous étiez pénétré du malheur, qui vous avait privé de votre enfant, et qui renouvelait les douleurs que vous avez fait ressentir la perte de sa mère. Quoique vous ne puissiez positivement accuser de cet accident celle à qui vous l'aviez confiée, il vous fut cependant impossible de vous empêcher de la regarder d'un mauvais œil, parce qu'il ne paraissait pas qu'elle fût coupable. Elle ne pouvait se justifier sur le fait de la négligence que l'événement avait rendue criminelle. Après les premiers transports de votre affliction, elle se flattait qu'il n'y aurait plus d'obstacle qui vous empêchât de l'épouser. Elle vous en fit renouveler les propositions par ses émissaires. Mais elle fut désabusée, et sa mortification fut extrême, quand vous déclarâtes que non seulement vous n'étiez pas plus que ci-devant dans l'intention de vous remarier, mais que, quand bien même vous changeriez d'idée, ce ne serait jamais en sa faveur. Après cette déclaration, vous joignîtes un ordre pressant de sortir incessamment de votre royaume. Sa présence vous rappelait le souvenir de votre fille et renouvelait vos douleurs. Voilà le prétexte dont vous vous servîtes. Mais la principale raison que vous aviez, c'est que vous vouliez faire cesser les cabales qu'elle faisait continuellement pour venir à son but. Elle en fut outrée, mais il fallut obéir sans pouvoir se venger. J'avais engagé une de nos anciennes à vous protéger. Son pouvoir était considérable parce qu'elle joignait à la vétérance l'avantage d'avoir été 4 fois serpent. Comme il y a un danger extrême à le devenir, il y a aussi des honneurs et un redoublement de puissance attachés. Cette fée, à ma considération, vous prenait sous sa protection et mit votre amante irritée hors d'état de vous faire aucun mal. Ce contretemps fut favorable à la princesse dont elle avait pris la ressemblance. Elle la fit sortir de son sommeil, et lui cachant le criminel usage qu'elle avait fait de ses traits, elle ne voulut lui faire voir que le beau de toutes ses actions. Elle n'oublia pas de faire valoir ses bons offices et la peine qu'elle lui avait épargnée. Et afin qu'elle continuât elle-même son propre personnage, elle lui donna des conseils salutaires pour se maintenir. Ce fut alors que, cherchant à se consoler de votre indifférence, elle retourna auprès du prince et qu'elle y renouvela ses soins. Elle le chérit, elle l'aima trop. Et cette fée, ne pouvant s'en faire aimer, lui fit ressentir un terrible effet de sa fureur. Cependant, le moment de ma vétérance était insensiblement venu, et mon pouvoir augmenté. Mais le désir de servir ma sœur et vous me persuada que je n'en avais pas encore assez. Ma sincère amitié me déguisant les périls des fastes dangereux, je voulus le franchir. Je devins serpent et je m'en tirai heureusement. C'est ce qui me mit en état d'agir sans mystère pour le service de ceux que nos mauvaises compagnes oppriment. Si je ne puis pas dans toutes les occasions détruire entièrement les charmes funestes, j'en ai souvent le pouvoir. Et du moins je suis toujours la maîtresse de les adoucir par ma puissance et par mes conseils. Ma nièce était du nombre de celles à qui je ne pouvais faire la faveur entière. N'osant découvrir l'intérêt que j'y prenais, il me parut plus à propos de la laisser sous le nom de la fille du marchand. J'allais sous différentes formes la voir souvent, et j'en revenais toujours satisfaite. Sa vertu et sa beauté égalaient son esprit. Âgée de 14 ans, Elle avait déjà fait voir une constance admirable dans la bonne et mauvaise fortune que son prétendu père avait éprouvée. Je fus ravie de connaître que les plus grands revers n'avaient point été capables d'altérer sa tranquillité. Au contraire, par sa gaieté, par la douceur de sa conversation, elle s'était fait un devoir de la ramener à son père et ses frères, et j'avais le plaisir de voir qu'elle avait des sentiments dignes de sa naissance. Mais cette douceur était mêlée de la plus cruelle amertume quand je me rappelais que tant de perfection était destinée pour un monstre. Je travaillais, je m'occupais vainement nuit et jour à chercher les moyens de la garantir d'un si grand malheur, et j'étais au désespoir de ne pouvoir rien imaginer. Cette inquiétude ne m'empêchait pas de faire de fréquents voyages auprès de vous. Votre femme, qui n'en avait pas la liberté, me sollicitait sans cesse de vous aller voir. Et malgré la protection de notre amie, sa tendresse alarmée lui persuadait toujours que les moments où je vous perdais de vue étaient les derniers de votre vie, et ceux que notre ennemi sacrifiait à sa fureur. Cette appréhension la troublait si fort qu'à peine me donnait-elle le temps de me reposer. Quand je venais lui rendre compte de l'état où vous étiez, elle me suppliait avec tant d'instance d'y retourner qu'il m'était impossible de lui refuser. Touchée de son inquiétude et voulant plutôt la faire cesser que m'épargner les peines qu'elle me causait, je me servis contre notre barbare compagne des mêmes armes dont elle s'était servie contre nous, et je fus ouvrir le grand livre. Par bonheur, ce fut au moment de la conversation qu'elle eut avec la reine et avec le prince, et la même qui se termina par sa métamorphose. Je n'en perdis pas un mot, et mon ravissement fut extrême de ce que, pour mieux assurer sa vengeance, elle détruisait, sans le savoir, le tort que la mère des temps nous avait fait en assujettissant la belle à l'hymen d'un monstre. Pour comble de bonheur, elle y mettait des circonstances si avantageuses qu'il semblait qu'elle les eût fait exprès, et dans l'unique intention de m'obliger, car elle fournissait à la fille de ma sœur l'occasion de faire connaître qu'elle était digne de sortir du plus pur sang des fées. Un signe, le moindre geste, exprime parmi nous tout ce que le vulgaire ne pourrait prononcer en 3 jours. Je ne dis qu'un mot d'un air méprisant. C'en fut assez pour faire connaître à l'assemblée que le procès de notre ennemie avait été fait par elle-même dans l'arrêt qu'elle avait fait rendre 10 ans devant contre votre épouse. À l'âge de cette dernière, il semblait plus naturel d'avoir des faiblesses de l'amour qu'à une fée du premier ordre et d'un plus grand âge. Je parle des bassesses et des mauvaises actions qui avaient accompagné cet amour suranné. Je représentais que si tant d'infamies restaient impunies, on aurait sujet de dire que les fées n'étaient dans le monde que pour déshonorer la nature et pour affliger le genre humain. En leur représentant le livre, je renfermais ma brusque harangue dans le seul mot « voyez ». Elle n'en fut pas moins puissante. J'avais de plus des amies jeunes et vétérantes qui traitèrent la vieille amoureuse comme elle le méritait. Elle n'avait pu vous épouser? Et l'on ajouta à cette punition le déshonneur d'être dégradée de l'ordre où on la traita comme la reine de l'île heureuse. Ce conseil se tint pendant qu'elle était avec vous. Dès qu'elle parut, on lui signifia le résultat. J'eus le plaisir d'en être témoin. Après quoi, refermant le livre, je descendis avec précaution de la moyenne région de l'air où réside notre empire, pour m'opposer à l'effet du désespoir où vous étiez prêt à vous abandonner. Je n'employais pas plus de temps à faire ce voyage que j'en avais mis à ma laconique harangue. J'arrivais assez tôt pour vous promettre mon secours. Toutes sortes de raisons m'y invitaient. « Vos vertus, vos malheurs, » dit-elle au prince en se tournant de son côté. « L'avantage que je trouvais pour la belle me faisait voir en vous le monstre qui me convenait. » Vous me sembliez seul digne l'un de l'autre, et je ne doutais pas que lorsque vous vous connaîtriez, vos cœurs ne se rendissent une justice mutuelle. « Vous savez, dit-elle à la reine, ce que j'ai fait depuis pour y parvenir, et par quelle joie j'ai obligé la belle de se rendre dans ce palais, où la vue du prince et son entretien, dont je la faisais jouir en songe, ont eu l'effet que je pouvais souhaiter. Ils ont enflammé son cœur sans ébranler sa vertu et sans que cet amour ait eu le pouvoir d'affaiblir le devoir et la reconnaissance qui l'attachaient au monstre. Enfin, j'ai conduit heureusement toutes choses à leur perfection. Oui, prince, poursuivit la fée, vous n'avez plus rien à redouter du côté de votre ennemi. Elle est dépouillée de sa puissance et ne sera jamais en pouvoir de vous nuire par de nouveaux charmes. Vous avez exactement rempli les conditions qu'elle vous avait imposées, car si vous ne les aviez pas exécutées, elle subsisterait toujours malgré son éternelle disgrâce. Vous vous êtes fait aimer sans le secours de votre esprit et de votre naissance. Et vous, la belle, vous êtes pareillement quitte de la malédiction que la mère des temps vous avait donnée. Vous avez bien voulu prendre un monstre pour votre époux. Elle n'a plus rien à exiger. Tout est désormais porté à votre bonheur.